ce commentaire « Où est la maman ?» Ces quatre mots ont déclenché un flot de violence inouïe contre Madame Maréchal, qui fut accusée notamment d'homophobie. Non, ce n'est pas être homophobe que condamner la GPA. Elle ne concerne d'ailleurs pas que des couples homosexuels. Marion Maréchal est très courageuse. Elle marche à contre-courant de l'espace médiatique. Elle a des convictions, elle ne les renie pas. Elle n'avance pas masquée au risque de déplaire, comme en son temps, François Mitterrand prit position contre la peine de mort. J'observe ce matin que le Parlement européen est sur la même ligne que Madame Maréchal. Je ne doute pas que la Macronie, Prisca Thévenot et Clément Beaune, qui n'ont pas eu de mots assez durs hier contre Marion Maréchal, fustigent ce jour cette noble assemblée qui, en criminalisant la GPA, dévoile à leurs yeux son homophobie. Il est 9h, Chana Lousteau.
9h, 9h30, l'heure des pros sur CNews et Europe 1.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Près de 7 Français sur 10 sont pour que la France s'inspire du Royaume-Uni et expulse les migrants en situation irrégulière vers un pays tiers comme le Rwanda. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. 67% sont favorables, 32% ne le sont pas et 1% ne se prononce pas. La situation pourrait devenir hors de contrôle dans les universités américaines. On vous parlait du mouvement pro-palestinien à Columbia avec la création d'un campement dans la cour de l'établissement. Mais ce mouvement se propage partout dans le pays, notamment au Texas, en Nouvelle-Angleterre ou encore en Californie. La pression est tellement forte que les étudiants israéliens ne veulent plus aller en cours. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, n'exclut pas de déployer la garde républicaine.
Si la situation n'est pas maîtrisée rapidement et si ces menaces et intimidations ne cessent pas, le moment est venu de déployer la garde nationale. Ces manifestants sont menaçants, intimidants et ils disent qu'ils s'en prendront aux étudiants juifs.
Et puis à Paris, les ailes du Moulin Rouge se sont effondrées cette nuit. Les pompiers ne savent pas encore ce qui a pu provoquer cette chute, mais heureusement, il n'y a eu aucun blessé. C'est la première fois qu'un accident de ce type se produit depuis la création du célèbre cabaret qui fêtera ses 135 ans cette année. Voilà pour l'essentiel de l'information, c'est à vous.
Écoutez, cher Chana, tout fout le camp.
Tout fout le camp
dans ce pays.
Tout s'écroule.
Les ailes, tout s'écroule. Même les ailes du Moulin Rouge. Et...
c'est vrai.
Quelqu'un est allé d'ailleurs au Moulin Rouge? Je ne suis jamais allé de ma vie. Bon, ah si, j'y suis allé d'ailleurs. J'y suis allé une fois.
Il y avait une émission de télévision.
Oui, exactement, pour une émission de télévision. Ouais. Je salue Sabrina Medjeber qui est là. Oui. Bonjour. Oui. Philippe Bidger.
Bonjour.
Bonjour. Jean Dorido, vous êtes psychologue et vous allez pouvoir parler de la GPA avec nous parce que c'est un sujet qui nous intéresse. Philippe Guibert et Gauthier Lebret sont également là. Et Monsieur D'Artigol. Marion Maréchal, je disais... quoi qu'on pense, hein, de la GPA, on peut être bon.
On peut être pour.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais peu importe, oui. Mon avis n'est pas.
Non, bien sûr.
C'est parce que moi,
c'est intéressant. Comme vous le donnez dans d'autres occasions.
Il est intéressant votre avis.
Alors, mon avis est toujours le même. Il y a des demandes dans la société qui sont nouvelles et il faut les écouter. Voilà. C'est cela.
Mais pas forcément les satisfaire. Donc. Mais,
non, il a dit les écouter.
Voilà. Et comme toujours, je dis toujours la même chose, la fracture, elle est générationnelle. Voilà. C'est-à-dire que les gens de 20 ans pensent comme ça et les gens de 80 ans pensent différemment, surtout sur ces sujets sociétaux. Mais peu importe mon avis. En revanche, ce que je trouve pas convenable, c'est d'attaquer Marion Maréchal en expliquant qu'elle est homophobe. Elle ne l'est pas.
Non.
Elle ne l'est pas. En tout cas, mais dire ou condamner la GPA. Mais on va l'écouter. On va l'écouter d'abord, Marion Maréchal. Et puis après, on va entamer la discussion entre nous, bien évidemment. Marion Maréchal, c'était hier soir sur CNews.
Je ne m'habitue pas à la banalisation de cette pratique, qui, je le dis, le plus franchement possible, est pour moi monstrueuse et honteuse. Voilà, monstrueuse et honteuse. Et je pèse mes mots. Jamais je n'accepterai qu'on banalise le fait de louer le ventre d'une femme pour une grossesse. Je ne suis pas un produit à louer, mon utérus n'est pas un produit à louer, les enfants ne sont pas des biens de consommation, ce ne sont pas des biens à vendre qui peuvent faire l'objet d'un contrat. Si on est aujourd'hui à se poser la question du débat des mères porteuses, c'est parce qu'on a eu...
J'entends bien, mais pourquoi...
Si vous voulez pas qu'on organise la privation d'un père ou d'une mère à la naissance d'un enfant, eh bien dans ce cas-là, il ne fallait pas accepter au départ l'adoption homosexuelle. Parce que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est à cause de cela.
Et c'est une femme de conviction qui parle. Manifestement, elle était habitée par ce qu'elle disait. C'est ça que je trouve intéressant. Alors, on revient, pour ceux qui n'avaient peut-être pas vu son tweet hier matin, le tweet qu'elle a produit après Monsieur Jacquemus et son mari ont annoncé la naissance des jumeaux, elle dit « Où est la maman ?»
Mais ce qu'on comprend quand elle parle, c'est pas seulement un tweet contre la GPA, c'est aussi un tweet contre l'adoption et contre le mariage pour tous. Elle a été très claire hier à votre micro.
Oui. Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas tout à fait ça. Mais quand elle dit « Où est la maman ?» Elle pense, j'imagine, à la maman biologique.
Alors il fallait le dire
à la mère porteuse, oui.
Enfin, il y avait où est la maman,
En toute honnêteté,
il n'y a pas d'autre. Vous envoyez une autre maman.
Oui, je vais vous la donner. En toute honnêteté, j'ai lu ce premier tweet comme un questionnement sur la capacité qu'auraient ces deux papas à rendre heureux les jumeaux.
Non, mais elle est con.
Je suis, moi, opposé à la GPA parce que j'y vois une marchandisation de l'enfant.
Là, c'est de mauvais choix.
Non, mais en toute honnêteté, j'ai lu ce tweet comme...
Bah, vous l'avez mal lu.
On a dû être nombreux à le lire ainsi.
Là, il faut juste être d'accord sur le factuel. Marion Maréchal est contre que deux papas aient un enfant. C'est tout.
Sur les
manières adoptées ou de manière par GPA. Voilà, elle l'a dit hier.
Jordan Bardella, a réagi ce matin, et puis après on va entamer la discussion et vous allez nous donner évidemment votre avis, Monsieur Dorido qui est avec nous.
Je n'aime pas cette manière de cibler directement les personnes. En revanche, sur le fond, moi je suis opposé à la gestation pour autrui parce que je pense que ça participe d'une logique de marchandisation du corps des femmes. Et je suis, éthiquement parlant et philosophiquement parlant, opposé à la gestation pour autrui.
D'accord sur le fond, mais pas sur la forme.
C'est-à-dire cette manière qui consiste à pointer les gens comme ça du doigt. Je pense qu'il faut toujours faire très attention. On peut en politique s'en tenir à des principes sur l'immigration ou sur la GPA sans viser directement des personnes.
Je suis pas sûr qu'elle visait des personnes où est la maman, mais enfin moi
il parlait du
bon. En revanche, Prisca Thévenot,
Jacquemus, il est visé par le tweet de Marion Maréchal. C'est-à-dire que vous pouvez être contre ce que dit Jordan Bardella, c'est que vous pouvez être contre la GPA, mais vous n'avez pas besoin de cibler un couple en particulier qui doit quand même se retrouver au cœur d'une polémique depuis 48 heures, pas très agréable.
Mais vous avez raison. Je peux pas. C'est un argument qui s'entend. En revanche, je vous propose d'écouter Prisca Thévenot, qui est la porte-parole du gouvernement.
Aussi, c'est pas mal.
Quelle que soit la composante de son couple, femme, homme, 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 femme, femme, accueille et célèbre avec joie l'arrivée d'enfants dans son foyer, en général de façon assez simple, je pense que dans nos vies perso, la première des réactions, c'est de dire félicitations. La première des réactions, c'est ça. Et pas de s'empresser de tweeter pour poser une question, où est la maman ? Sachant que, arrêtons de faire comme si nous ne savions pas, Marion Maréchal Le Pen est opposée au mariage pour tous. Elle y est opposée. Donc pour elle, effectivement, c'est une vocation politique de se servir d'un fait de joie. Et moi, j'ai envie de dire de façon très simple, c'est que oui, permettons-nous d'effectivement de pouvoir accueillir ces moments de joie sans en permanence essayer de rattraper ça par des discours de haine. Et je pense que nous devons être en capacité de regarder ça. On ne découvre pas Marion Maréchal aujourd'hui.
Mais est-ce qu'on dit félicitations à quelqu'un qui enfreint la loi ?
Ils ont accueilli un enfant. Je pense qu'à un moment, il faut pouvoir aussi l'accueillir, le regarder.
D'accord, donc on ne condamne pas...
Sur le sujet de la GPA, c'est votre sujet.
C'est interdit, la GPA.
Le sujet de la GPA, la ligne est claire. Et la ligne, si vous voulez, je la rappelle, la GPA n'est pas autorisée en France. Une autre ligne est claire, c'est que l'homophobie est un délit aussi.
Merci.
De rien.
Ce qui est agaçant dans ce monde, c'est que évidemment, c'est pas un discours de haine de dire où est la maman. Oui. Donc, ce n'est pas un discours de haine. En revanche, Jacques Seret pose la question : est-ce que ce couple enfreint la loi ?
Non, que la GPA était pratiquée à l'étranger.
C'est illégal en France. La GPA est illégale.
Elle enfreint la loi.
Par contre, quand vous allez faire les GPA à l'étranger, ce n'est pas illégal. Et les enfants sont même reconnus par une circulaire prise par Christiane Taubira.
C'est une hypocrisie,
Taubira.
Alors.
Ils sont reconnus.
C'est une hypocrisie illégale.
C'est une hypocrisie, c'est de dire que les enfants, ils n'ont pas choisi de naître, ni la manière de concevoir.
Mais
ce
couple...
À partir du moment où ils existent, vous leur donnez la nationalité française, vous pouvez les inscrire dans le livret de famille, etc.
Donc, quelles conditions ça a été fait ?
Ce couple n'enfreint pas la loi.
Ce couple n'enfreint pas la loi, la GPA n'est pas faite en France.
Monsieur Dorido qui est avec nous, votre avis ?
Mon avis, c'est très intéressant de vous écouter les uns les autres. La GPA est illégale en France. Ça, c'est un fait. Et c'est nous qui écrivons la loi, par l'intermédiaire du législateur pour qui on vote. Donc aujourd'hui, nonobstant les sondages divers et variés, la France est contre la gestation pour autrui. Ça, c'est le premier point. Sur la question de l'infraction, aujourd'hui, concrètement, quand un couple, quelle que soit sa composition, procède à une gestation pour autrui à l'étranger, dans un pays dans lequel c'est autorisé, il y a un, imaginons que ce soit un monsieur, un père, qui est reconnu comme étant le père, et puis, de retour en France, si cet homme est marié à un homme, alors à ce moment-là, le mari du père de l'enfant peut procéder à ce qu'on appelle une adoption plénière.
Oui.
Et à ce moment-là, devient le deuxième père de l'enfant. Pour autant, en psychologie, ce qui prime sur toutes les questions de société, d'avis politique et autres, c'est ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire que là, j'entends beaucoup parler de l'intérêt de la génitrice, qui est une question tout à fait légitime, évidemment, avec les questions éthiques que ça pose, en termes de marchandisation, en termes d'échange d'argent. Pour autant, je n'entends pas parler de l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, c'est une question majeure, puisque l'on sait que dans tous les parcours de vie qui sont marqués par l'adoption, la question de la restitution auprès de l'enfant de son histoire est une question essentielle. Et les secrets de famille, par exemple, quant à l'histoire d'un enfant, et on n'a pas attendu les questions de GPA pour ça, il y a toujours eu dans les grandes familles des filles de palefreniers, des fils de jardiniers. Et on a vu, si vous voulez, la science aujourd'hui est assez riche sur les troubles majeurs que pose le secret quant à la
filiation. Là, il n'y a pas de secret si on dit à cet enfant
c'est une question que pose la GPA. Comment bah, je n'entends pas, je vous entends débattre les uns les autres.
Bah, vous dites
Marion, Maréchal,
mais vous dites à un enfant, à un enfant la vérité, tout
moi,
simplement.
Moi, je dis rien, moi, un enfant. Hein. Moi, je suis là pour parler du sujet. Je n'entends pas.
Vous dites un secret, moi, je vous réponds, j'imagine.
Je n'entends pas aborder la question majeure. Une des questions majeures que pose la GPA, qui est illégale en France, je n'entends pas poser cette question. Comment sera restituée à l'enfant son histoire? Et alors que c'est une question essentielle.
Bien sûr, mais en fait, ça ne me paraît pas très compliqué de dire à un enfant...
Peut-être que vous ne vivez pas la chose, ça se pourrait.
Sans doute, mais non, ça ne me paraît pas très compliqué de le dire. Ça va,
de dire
à cet enfant, voilà, ton père et moi... prenons le cas de ces deux hommes, nous nous aimions, nous ne pouvions pas avoir d'enfants en France, nous avons choisi de rencontrer une femme qui a fait cet acte d'amour pour nous, et tu es le fruit de cette naissance. Et sache qu'on est très heureux que tu sois...
Vous faites un récit très positif.
Et sache qu'on est très heureux que tu sois sur cette terre, je pense que tu l'es aussi, parce que la vie est là.
Je pense que vous pensez à sa place.
Et nous avons payé ta maman. Parce que vous faites
Je ne vous dis pas que c'est ce que je pense.
Non, mais votre on pourrait récit. Le dire, en effet,
je le dis,
que ces choses-là sont bien dites.
Je vous dis,
et si le gamin dit...
On peut avoir un récit plus...
Très bien, merci pour cette information. Maintenant, je voudrais rencontrer...
Et bien, à ce moment-là, vous lui dites... Il faut toujours dire la vérité aux gens, vous dites voilà, dans le cadre de cette naissance, il était convenu que une fois que tu sois né, cette mère, tu ne la rencontres jamais.
Voilà. Alors je vous remercie.
Mais nous lui avons donné 20 000 euros.
D'apporter de l'eau à ma réflexion.
Oui.
L'intérêt supérieur de l'enfant, à ce moment-là, n'est pas pris en compte.
Mais c'est
puisqu'on
possible.
Sait, on le sait aujourd'hui, c'est documenté, la question de l'accès aux origines...
Non, mais moi, je ne donne pas mon avis.
Et les adoptions sous X.
Ben justement, c'est passé dans la loi récemment. Il y a aujourd'hui un droit qui est inscrit dans la loi d'une personne née sous X d'avoir accès aux informations que la génitrice a peut-être accepté.
Philippe Bilger,
ou pas. Et dans les cas où il n'y a pas d'informations, c'est très difficile, quand vous faites de la clinique sur le sujet, c'est très difficile pour les personnes nées sous X de subir... Cette absence d'information.
Vous avez raison, Philippe Pascal. Bilger. D'abord, Marion Maréchal n'est pas homophobe lorsqu'elle dit ça. C'est une évidence. Ensuite, la GPA est interdite en France. Troisième élément, vous avez totalement raison, même si parfois j'ai eu le sentiment que vous abusiez un peu de cette explication. Là, c'est clairement générationnel. En ce qui me concerne, j'ai du mal à valider la GPA. Pour des raisons de marchandisation et le fait que même s'il y a des situations qui appellent des réponses de ce type, je préfère tout de même qu'on respecte cet humanisme minimal qui consiste à ne pas instrumentaliser autrui sur ce plan-là. Et dernier élément, est-ce qu'on parlerait véritablement de ce propos si elle n'avait pas utilisé deux adjectifs que je trouve aberrants? La GPA, je suis hostile à ce qu'elle représente, mais je ne la qualifierais pas de monstrueuse ni de honteuse. C'est une absurdité, ça, de dire ça. On n'aurait pas ces deux adjectifs, il serait plus sensé. Est-ce qu'on aurait véritablement une polémique sur l'évidence qu'elle a affirmée?
Sabrina Benjaber.
Moi, je me souviens des propos de feu Pierre Berger qui avait dit, après la manif pour tous, louer son ventre, quelle différence entre louer son ventre et louer ses bras à l'usine. Donc, pardon, moi, des propos comme ça, ça me choque. Moi, je suis contre la GPA. Je soutiens Marion Maréchal dans ses propos. Je considère que c'est évidemment une prolétarisation liée à la marchandisation du corps de la femme. Quand elle dit « mon utérus m'appartient », elle a tout à fait raison. Le corps des femmes, c'est le corps des femmes. La marchandisation pour faire plaisir à un couple homosexuel qui désire avoir un enfant par le biais d'une femme qui vit dans une situation de précarité, je trouve ça, honteux et monstrueux. Je m'étonne également de toutes les réactions qui n'existent pas concernant les féministes de gauche qui se plaignent en permanence du capitalisme prédateur, mais qui là ne semblent pas s'offusquer justement de la gestation pour autrui qui est précisément oui. L'acte...
Olivier Dargisol, et on montrera effectivement le tweet d'Éric Nolot et le tweet également du président de la République.
Ah ben voilà.
Il y a quelques années.
2017, au début de son premier quinquennat.
Je ne sais pas si Marine Lançon va nous le proposer.
Une hypocrisie du côté du gouvernement.
Ce sont en fait les mêmes mots qu'Emmanuel Macron... ce sont les mêmes mots que Madame Marion...
Pas monstrueux...
Si, mais il a dit... Oui. Elle a répondu avec les mêmes mots.
C'est une question d'éthique et de dignité.
Marion Maréchal a tweeté ça.
Intéressant, Pascal, la manière dont vous avez tout à l'heure mis en récit la façon dont on pourrait annoncer à un enfant la manière dont ça s'est passé. Parce qu'au final, vous avez fait un récit qui était au nom de l'amour deux hommes qui veulent avoir un enfant et qui ont donc procédé de cette manière-là. Sauf que vous avez totalement évacué la dimension marchande qui prend des proportions dans certains pays. Il faut voir les chiffres, les chiffres qui circulent, les situations faites à ces femmes.
C'est vrai.
Et donc, le marché a pris la main sur beaucoup d'activités, de pans de nos vies, de nos sociétés. Il y a des choses qu'on devrait protéger parce qu'elles ne sont pas marchandises.
Regardez le tweet d'Emmanuel Macron. Pendant mon quinquennat, la GPA restera interdite en France. C'est une question d'éthique et de dignité. Et Marion Maréchal a répondu à ceux qui l'attaquaient. C'est une question d'éthique et de dignité. Et elle a repris, effectivement, les mots du président de la République. On peut peut-être écouter Mme Agacinski, qui était intervenue sur ce sujet. Un matin, c'était sur France Inter. Elle est aujourd'hui académicienne. C'est une femme de gauche. Et elle a une position très claire et très radicale contre la GPA. Je vous propose de la réécouter.
Je me place pas à la place du législateur. Je dis réfléchissons, je pose des questions et je parle d'ailleurs d'abord aux femmes. Je dis les femmes doivent d'abord s'interroger là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire au fond de construire de manière artificielle, de provoquer de manière artificielle la naissance d'un enfant dont a priori, qui sera a priori privé et de géniteur et de père. Moi je dis aux femmes, faites attention parce que on a déjà l'expérience avec la PMA qui est d'ailleurs il y a très peu, la PMA pour les couples mixtes, c'est pas des couples hétérosexuels, c'est des couples mixtes parce que la PMA est médicalement s'adresse
la PMA thérapeutique pour ceux qui ont un problème pour avoir des enfants.
Oui, c'est pas vraiment thérapeutique, c'est pour cause médicale.
Oui,
donc c'est pour.
Et vous êtes inquiète de ça, par exemple, ça, ce qu'on utilise la PMA thérapeutique ou la PMA pour soigner une stérilité?
Ah ben non, pas du tout.
On est d'accord.
Non, pas du tout. L'autre, on ne va pas abandonner la PMA. Je ne dis pas ça. Je constate simplement que dans les faits aujourd'hui, les méthodes d'injection directe, pour être clair, des spermatozoïdes dans l'ovule font que la PMA pour les couples mixtes qui ont des problèmes de pathologie utérine, les gamètes, etc., il y a 5% de dons de gamètes. Tout le reste, c'est les gamètes du couple et l'enfant est donc l'enfant du couple. Or, pour l'enfant qui est né de sperme inconnu, vous avez tous lu le livre d'Arthur, Kermalvesen, etc. Pour l'enfant de sperme inconnu, il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut essayer de résoudre, et je suis d'accord sur l'idée qu'il faudrait peut-être, par exemple, que le donneur laisse une lettre à l'enfant pour expliquer ses motivations, pour qu'il y ait une repersonnalisation de l'engendrement, on va dire. Mais que se passe-t-il si l'enfant, lui, n'a que une seule filiation maternelle, ou de deux mères, ou d'une seule mère, alors on construit, à cause de la loi et à cause de la médecine, les conditions d'une naissance qui va être différente de tous les autres enfants, qui va être tronquée. Comme dit Lévi-Strauss, hein, la parenté est construite sur, sur la procréation.
La parenté, bon, là, c'était davantage sur la PMA. On rappelle quand même qu'au Danemark, c'est autorisé. Aux Pays-Bas, c'est autorisé. En Albanie, en Géorgie, en Grèce, c'est autorisé. Au Canada, c'est autorisé. Et c'est également autorisé dans certains États fédérés américains.
Qui dit mieux? C'est ça la question? Non, mais c'est pas parce que...
Non, mais moi, je vous donne la parole.
La réflexion psychologique, éthique, philosophique, anthropologique... fait fi de décisions prises dans tel ou tel état.
Enfin, en fait, pour que je comprenne...
Le travail des enfants en France est interdit depuis le 19e siècle. Bon. Il y a des pays où c'est autorisé.
D'accord,
bon.
Non, mais pour que je comprenne votre position, vous êtes contre la GPA parce que vous considérez que ce n'est pas l'intérêt de l'enfant.
Alors... Pour le coup, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, je ne me positionne ni pour ni contre. Vous m'invitez en tant que psychologue, et je m'étonne que des questions essentielles concernant la GPA ne soient pas abordées sur votre plateau. J'entends une polémique politique qui est respectable, ok.
Bon, c'est quoi la question essentielle?
La question essentielle, c'est l'intérêt de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant.
Mais oui, mais vous-même, vous ne pouvez pas y répondre.
Mais parce qu'on n'a pas de recul.
Il
y a toujours eu dans l'histoire.
Mais qu'est-ce qu'on fait,
Pascal Praud? Vous parliez d'amour tout à l'heure entre deux hommes. Il y a toujours eu des GPA, je dirais artisanales. Oui. Ça a toujours existé. On peut même en connaître autour de nous. Deux hommes qui s'aiment, ils ont une copine et ils se mettent d'accord et donc il y a un enfant qui naît et ça donne de très belles histoires de vie pour le coup parce que vous l'avez dit, il n'y a que de l'amour. Monsieur D'Artigol le rappelait tout à l'heure, là on aborde une dimension qui est essentielle en éthique, une dimension de transaction marchande. Et ça pose...
Non mais j'entends bien, je vous assure, mais il n'y aura jamais de recul par définition, c'est-à-dire que si on ne le tente pas, il y aura...
Vous évoquez des pays où c'est autorisé...
Attendez, monsieur Dorado, il y aura par définition, soit on le tente et il y aura du recul, soit on ne le tente pas, il n'y aura jamais de recul.
Là c'est tenté pour l'instant dans plein de pays...
Non mais répondez à ce que je dis.
Oui, c'est tenté dans plein de pays.
Donc vous dites qu'il n'y a pas de recul.
On pourra voir dans 30 ans, les petits Danois, ce que ça donne...
Donc votre position, c'est de considérer qu'en attendant... On ne la légalise pas en France.
Mais c'est illégal en France.
Oui, mais c'est votre position. Vous pensez que c'est pas une bonne chose.
Si votre question, c'est est-ce que je vais militer demain pour qu'on change la loi pour autoriser les GPA? Non, c'est pas dans mes projets, ça, effectivement.
Non, mais vous pensez donc que c'est contre l'intérêt de l'enfant. C'est ça qui m'intéresse. Votre avis m'intéresse.
L'intérêt supérieur de l'enfant.
Votre avis m'intéresse. Oui.
Tenez votre position.
Mais sans blaguer, j'ai vraiment, je le vois dans ma clinique. Il y a des histoires de GPA artisanales. Qui sont des très très belles histoires de vie, et il y a beaucoup d'amour, et il n'y a pas de souffrance en termes cliniques. Pour autant, si vous voulez, là c'est l'ancien ingénieur qui vous parle, là on passe de l'artisanal à l'industriel. C'est ça la question. Et on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, pardon pour la métaphore, on sait bien, on le voit même sur l'alimentation, dès que vous faites de l'industriel, il y a plein de problèmes. Problème d'hygiène, problème de justement d'éthique, comment sont traités les ouvriers. Madame le rappelait tout à l'heure, on parle quand même de femmes qui vont vivre une grossesse pendant 9 mois, en prévoyant, comme le disait Madame Agazinski, à l'avance, d'abandonner l'enfant. Pas besoin d'être Saint-Honoré de psychologie pour comprendre qu'une femme, quand même, qui se sépare du fruit de son sein, c'est quand même une épreuve dans la vie. Et donc, tout ce qui est artisanal, basé sur l'amour, c'est des très très belles histoires. Là, vous me dites, alors, on industrialise, Jean. On y va, on industrialise. Ils le font au Danemark, ils le font partout. Moi, je vous dis, écoutez, non, Pascal, c'est pas raisonnable.
Que je vous pose des questions et que votre avis...
Ça ne semble pas raisonnable.
Et bien voilà, votre avis de spécialiste nous intéresse et vous avez donné votre, clairement, votre avis, c'est ça qui nous intéresse. Il est 23 ouais. déjà, malheureusement.
Mais juste un mot.
Ou pas. Non, il n'y a pas de mot. 9h24. Non, vous parlerez tout à l'heure, parce que Thomas, il est avec nous, et je le salue. Thomas, qu'est-ce qui se passe?
Oui,
vous
êtes bien coiffé.
A priori, non, mais vous êtes bien coiffé. Vous avez un petit ours blanc, en plus, j'ai l'impression, sur le cœur.
Bien sûr, il faut protéger la planète, Pascal.
Comment?
Il faut protéger la planète, Pascal.
Ah, ça, je ne vous le fais pas dire.
Voilà.
Bon. De quoi? On ne sait pas, il faut la protéger. Merci, cher Thomas.
À tout à l'heure, Pascal.
9h30, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Thomas Hill.
Et dans quelques minutes, c'est Culture Média qui commence avec cette question ce matin. Faut-il totalement bannir les téléphones portables des écoles et des collèges? On sera avec la sénatrice qui a déposé hier une proposition de loi en ce sens. Et puis, on accueillera ensuite l'un des plus grands réalisateurs de comédie en France, Jean-Marie Poiré. À tout de suite sur Europe 1.
9h30, 11h sur Europe 1.
Culture Média.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. En général, la machine à café, c'est la bonne excuse pour faire des pauses au boulot. Mais là, avec votre machine Nescafé...
Oui.
Eh ben, j'ai aussi une excuse pour faire des pauses quand je télétravaille.
Et ça fait du bon café. Du 23 avril au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, la machine Nescafé Dolce Gusto Minimi et ses 60 capsules offertes avec 20€ de réduction est à 39,90€. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Garantie 2 ans, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Carrefour. Quand vous me dites « la 1664 est moelleuse, complexe, avec des notes florales et une fine amertume », oh, je pourrais en parler pendant des heures. Eh bien, je vous réponds qu'avec 30% de remise immédiate, le pack de 28 bières blondes 1664 de 25 centilitres est à 12,88€ seulement au lieu de 18,40€. Et c'est jusqu'à lundi chez Carrefour et Carrefour Market. Carrefour, soit 1,84€ le litre. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
C'est si bon.
Limousine.
À l'aubergine.
À la bénédictine.
À la poitevine.
À la girondine.
En mousseline.
Chez Micheline.
En mandarine.
Façon Justine.
En gélatine.
À la cantine.
En tartine.
En tagine.
En verrine.
So bling bling.
En smoking.
En jogging.
Chez la voisine.
De la grande cuisine.
Chez nous le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches. Oui,
oui. Grand frais.
Ouais, Francky, bon, je vais pas pouvoir venir te chercher à la gare, hein. Là, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont une burrata ultra crémeuse, parfait pour ma salade de tomates. Donc, attends-moi un peu, t'inquiète, j'en ai pour 4 heures max.
Chez Grand Frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à samedi, la burrata dépouille de 150 grammes est à seulement 2,49€. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand Frais!
Le meilleur marché.
Soit 16,60€ le kilo, pourcentage de matière grasse précisé sur le lieu de vente, au lait de vache, élaboré en Italie. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Europe 1.
Et vous êtes bien sur Europe 1, la matinée se poursuit avec Culture Média dans moins de 2 minutes autour de Thomas Hill, toute l'équipe est fin prête, Julien Pichenet, Jean-Luc Lemoine, tout le monde arrive dans un instant sur Europe 1, tout de suite.
Europe 1. Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Leclerc, bonjour.
Bonjour, il paraît que vous avez d'excellentes asperges françaises en bottes.
Tout à fait, et c'est un vrai délice de saison.
Ok, mais pourquoi en bottes? C'est le printemps, moi j'ai sorti les sandales.
Vous pouvez même les déguster en tongs si vous voulez. Du 24 au 27 avril chez Leclerc, la botte de 500 grammes d'asperges blanche-violette origine France est à seulement 3,70€.
Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 7,40€ le kilo. Catégorie 1, calibre 16-22 mm. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Avec le 3044, vous êtes sûr de parler à un vrai conseiller Carglass et l'appel est gratuit. N'oubliez pas, une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
À tous ceux qui disent « À table !» juste avant que le repas soit prêt. À ceux qui mettent les assiettes, comme ça, ça fera venir les autres.
« À table !»
À ceux qui commencent à servir, parce que de toute façon, il faut tout faire soi-même dans cette maison.
« À table !»
Et à ceux qui finissent par couper le Wi-Fi.
« À table !»
Jusqu'à samedi, Intermarché propose la côte de bœuf Origine France à seulement 14,90€ le kilo.
« Ah, ça va, c'est bon, j'arrive. »
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Viande bovine, côte 3 étoiles à griller.
Europe 1, le journal permanent.
Il est 9h30 sur Europe 1, juste avant Culture Média. Un point sur l'actu avec Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Thomas et bonjour à tous. Un président en campagne européenne, Emmanuel Macron, au secours de son camp qui stagne à la deuxième place dans les sondages avec un grand discours sur l'Europe à la Sorbonne, 7 ans après un autre, juste après sa prise de fonction en 2017. 3 vols sur 4 supprimés au départ ou à l'arrivée à Orly, près d'1 sur 3 pour Marseille. Quelques exemples des prévisions de trafic dans les aéroports français aujourd'hui et ce, malgré la levée du préavis de grève des contrôleurs aériens. Faut-il faire comme le Royaume-Uni et expulser les immigrés illégaux vers un pays tiers ? 67% des Français disent oui, résultat d'un sondage exclusif CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. À l'étranger, cette nouvelle frappe de drone au sud du Liban ce matin, le Hezbollah l'attribue à Israël. Tel Aviv qui a confirmé avoir mené des frappes sur 40 positions de l'allié libanais du Hamas palestinien hier. La mission de l'ONU présente sur place à cette frontière assure qu'aucun soldat de Tsahal ne l'a franchi. Et puis les premiers déblayages ce matin devant le Moulin Rouge. Les ailes du célèbre monument parisien se sont effondrées cette nuit, causant aussi des dégâts sur la façade du cabaret. Aucun blessé, heureusement, n'est à déplorer, mais toujours pas d'explication sur cette chute. 9h31 sur Europe 1, un autre monument bien debout, celui-là, Thomas Hill pour Culture Média.
C'est trop d'honneur. Merci Victor, et prochain point sur l'actualité à 10h sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
9h30, 11h.
Thomas Hill.
Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média et bonjour à la belle ribambelle de professionnels qui m'entourent. Anissa Dadi, Jean-Luc Lemoyne et Julien Pichenet.
Bonjour Thomas.
Vous, le magicien des mots.
Merci. Rime riche. Est-ce que vous pouvez prendre vos portables, s'il vous plaît, et regarder dans vos réglages quel est votre temps d'écran jour en moyenne. En moyenne, hein. Combien de temps vous passez avec cet objet sous les yeux chaque jour?
Ça ne me le dit pas, bizarrement.
4h16 pour moi.
4h16, Julien.
C'est pas mal. Ça va.
7h54.
Il explose tout.
Ah oui.
C'est ça.
Et 6h56.
C'est énorme.
Je m'en sers comme GPS.
Oui, ça joue. Ça fonce. Ça joue en termes d'excuses.
Moi, je m'en sers de lumière aussi, de table de chevet. Enfin, non, on va tous trouver des excuses, Jean-Luc.
C'est vrai qu'on est tous un petit peu accro, mais alors pour nos enfants qui sont en plein développement, c'est particulièrement inquiétant. Et avec nous ce matin, la sénatrice Agnès Evren. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez déposé hier une proposition de loi pour totalement bannir le portable à l'école et au collège. On va en parler dans un instant. Et puis dans la deuxième partie, le réalisateur des Visiteurs, de Papy fait de la Résistance ou encore du Père Noël est une ordure sera avec nous, Jean-Marie Poiré, pour ses mémoires absolument passionnantes. N'hésitez pas à réagir à cette émission avec le hashtag Europe 1. On est ensemble jusqu'à
11h. 9h30, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Thomas Hill.
Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Agnès Evren qui vient nous parler de sa proposition de loi pour faire respecter l'interdiction des téléphones portables à l'école.
Ouais, maintenant je suis plus crédible avec mon temps d'écran. Mais j'aime bien l'idée. J'aime l'idée parce que j'ai l'impression que plus notre téléphone devient intelligent, plus nous, on devient crétins. Sérieusement, depuis
c'est
le
vrai.
Smartphone, notre intelligence est officiellement sur disque dur externe. Alors, protéger les plus jeunes, c'est bien. Mais il y a quand même quelque chose qui m'interroge, madame la sénatrice. L'interdiction des téléphones mobiles dans l'enceinte de l'école, c'est prévu par la loi du 3 août 2018.
Oui.
Donc on est bien d'accord que là, vous proposez une loi pour faire appliquer la loi.
Absolument.
Voilà.
C'est exactement ça.
Est-ce que dans 2 ans, quelqu'un ne voudra pas proposer une loi pour faire appliquer votre loi qui fait appliquer la loi?
Non, parce qu'elle sera efficace, la mienne.
Oh, attention. attention.
Non, parce que voilà, voilà. En fait, vous voudriez qu'on fasse comme en Espagne.
Ils arrivent le matin et ils déposent leur téléphone dans un casier.
Alors, j'ai quand même une question. S'ils n'ont plus de téléphone, qu'est-ce qu'ils vont faire aux toilettes? Ils vont être obligés de réfléchir. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des blessés?
Ah oui, c'est risqué, en effet. Bon, alors Jean-Luc, ce matin, vous vouliez revenir sur cette émission qui ne perd pas de temps, Mariée au premier regard.
Oui, car moi, j'aime l'amour et les statistiques. Ah oui. Vous, Thomas, je vous apprécie à 62%.
Hein, c'est pas ouf. C'est
Anissa,
pas ouf.
À 74%. Oh, et Julien...
Non.
Et encore, je suis large. Et Julien à 82%.
Ah ouais, d'accord.
En temps normal. Quand il a bu un verre de trop, il me dit que je suis sa petite princesse, ça tombe à 12.
Quand même, attendez.
Donc pour ceux qui ont des soirées plus intéressantes que les miennes, je rappelle le concept du programme. Une femme et un homme se rencontrent pour la première fois le jour de leur mariage qui a lieu à Gibraltar. Oui, je sais, dit comme ça, on a l'impression que c'est le pitch de Very Bad Trip 4. Mais tous les postulants attendent ce coup de fil d'un des spécialistes.
Et je peux vous dire
qu'il y a un homme
compatible avec vous à 77%.
77%. Voilà, c'est honnête. Tu sais qu'avec lui, tu risques de te faire chier seulement 23% du temps. Ce qui est un bon ratio dans une vie de couple, je vous assure.
C'est pas mal. Hein.
Ludivine a une idée précise de l'homme qu'elle attend. Ce qui compte, comme dirait Anissa, c'est la taille.
La taille, j'ai vachement de mal avec ça. Moi, je suis sur du 1,85 à 90. Je suis sur du massif.
Ah ouais. Je suis sûr du match. Là, tu sais plus si elle parle de son futur mari ou si c'est une réunion de chantier. Je veux du massif et par-dessus, je mets du BA13. Le prétendant en question s'appelle Raphaël et il avoue avoir un défaut, il recherche la perfection.
Un petit détail physique, c'est vrai que je pouvais remettre en question la relation. Il y en a une, par exemple, quand je l'ai vue démaquiller, elle avait plein de petits boutons partout. Mais ça m'a fait directement un blocage, quoi.
Ouais, perso, j'ai eu plein d'acné, c'est vrai que c'est pas cool. Mais j'ai un petit message pour Raphaël. Si tu prends un stylo et que tu relis tous les points noirs, tu découvriras un cheval. Toi aussi, apprends le coloriage avec Jean-Luc Lemoine. Le pire, c'était la cérémonie, avant que les futurs mariés n'arrivent. Entre les deux familles, c'était la foire aux bestiaux. Ils avaient tous envie de vendre leur champion.
Non, honnêtement, je dis pas ça parce que c'est ma sœur, mais c'est une très très belle femme.
C'est une gravure de mode.
Ah oui, elle rentre dans une pièce, les gens se retournent.
Ça, je crois pas à cette expression. Parce que si les gens ne te regardent pas, pourquoi ils se retournent, hein? Ou sinon, c'est à cause de l'odeur. Du côté de la famille du marié, c'était pas mieux.
C'est le genre de garçon qu'on épouse. C'est pas un playboy qui sort, qui fait la fête et qui change de fille tout le temps. Alors qu'il pourrait, hein. Il est tellement beau gosse.
Oui, il a 5 zizi, c'est pour ça que son slip lui va comme un gant. Ophélie et Loïc.
Excusez-nous, madame la sénatrice.
Hein. Écoutez, désolé. Pendant que je suis ma rubrique, il y a madame la sénatrice qui était sur son portable, alors qu'elle vient pour.
C'est vrai.
S'il vous plaît.
C'est vrai.
Ophélie.
Très juste.
On marche sur la tête.
Vous voyez l'addiction, ce que c'est.
Voilà, c'est fou.
C'est fou.
Ophélie et Loïc sont déjà passés par le mariage dans les épisodes précédents. Hein. Donc maintenant qu'ils sont mariés, logique, ils essaient de faire connaissance.
Ma plus longue relation, ça a été uniquement un an.
Ta plus longue relation?
Ouais. Je peux te rassurer, je suis l'homme le plus fidèle au monde. Ça a su.
Tu sais pas, t'as pas eu de longue relation.
Ouais. C'est pas faux. Ah oui. Si t'es fidèle mais que t'es pas en couple, faut reconnaître que t'as moins de mérite. Ouais. Ce qui compte dans une émission comme ça, c'est aussi de trouver les bonnes illustrations musicales.
Les jeunes mariés vont passer quelques jours en tête à tête en Algarve, dans le sud du Portugal.
Ah, la musique portugaise. Donc c'est la science qui a réuni Loïc et Ophélie. Et là, ça a été une leçon pour tous les spécialistes. Car tu peux trouver un taux de compatibilité élevé. Tu peux prouver scientifiquement que deux êtres sont faits l'un pour l'autre. Mais il y a une chose que tu ne peux pas prévoir. Ça se passait au petit déjeuner, après leur première nuit passée ensemble.
Tu veux du jus?
Oui, s'il te plaît.
Je ne
sais même pas par quoi commencer.
Croissant, chocolatine...
Chocolatine, t'as dit?
Ah oui, c'est chocolatine.
Pas au chocolat, chocolatine, ils se sont séparés juste après, fin du concept. C'est ça la vraie vie.
Ah, il faut tester la compatibilité. Vous avez déjà vu ce programme ou pas, madame la sénatrice?
Non.
Marié au premier regard?
Non.
Ça vous a inspiré là, ça vous...
Oui, je me dis que ça peut être intéressant.
Vous êtes contre tous les écrans, même télé.
Mais non, moi je dis pas que le smartphone doit être le bouc émissaire. Je dis juste qu'il faut le remettre à sa juste place. Mais il n'a rien à faire dans les classes.
Pas parce que quand les chroniques on va de Jean-Luc Lemoyne. Voilà,
quand on va à l'école, on y va pour réfléchir, pour travailler, pour interagir avec les autres et non pas pour avoir le téléphone, les yeux rivés sur son portable.
Et on va en parler dans un instant. Merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve demain et d'ici là en replay sur Europe1.fr.
Jean-Luc Lemoyne que moi j'apprécie à 99%. Bon,
c'est vexant.
Lui, 74%.
C'est bon, t'es monté à 72%.
Ouais, bah super, merci Jean-Luc. À demain. Reste avec nous sur Europe 1 dans un instant la suite de Culture Média avec Agnès Evren, sénatrice. Les Républicains de Paris. On va donc parler de cette proposition de loi visant à interdire les portables à l'école. Mais juste avant, notre monsieur Histoire a un message pour vous. Écoutez.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. On se retrouve cet après-midi de 15h à 16h dans Historiquement Vôtre sur Europe 1.
Historiquement Vôtre.
Je vous raconte une date restée dans l'histoire, le 25 avril 1974, il y a 50 ans jour pour jour, lorsqu'une insurrection militaire a mis fin au régime autoritaire initié par Salazar. La véritable histoire de la révolution des œillets au Portugal.
Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern.
C'est cet après-midi de 15h à 16h sur Europe 1.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Ah, le patron, ils les ont à 1,99€.
Les avocats?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, la barquette de deux avocats est à 1,99€.
Moins de 1€ l'avocat pour le lot de deux. Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
C'est la vocation de Lidl, non?
Avec des avocats à ces prix-là, il n'y a plus de justesse, ouais.
Et on est juste mal.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, diverses origines selon arrivage en supermarché. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas.
Oui, je reçois ce matin Agnès Evren, vous êtes sénatrice Les Républicains de Paris et hier matin, vous avez déposé une proposition de loi pour faire vraiment interdire les téléphones portables à l'école parce que Jean-Luc le disait, depuis 2018, les téléphones portables sont théoriquement interdits à l'école, mais ce n'est pas vraiment appliqué, en fait, cette loi, c'est ça ?
Mais en fait, la loi de 2018 interdit l'utilisation des portables dans les écoles et dans les collèges, sauf qu'en pratique, en fait, rien n'empêche la détention, le port du téléphone portable dans les établissements scolaires. Mmh. Et donc, on s'est rendu compte...
Donc dans le cartable, quoi.
Dans le cartable. Ils sont censés être rangés et éteints dans le cartable, sauf qu'en fait, ils sont tout simplement dans la poche des élèves. Et qu'il y a une étude récente qui montre qu'en fait, un élève sur cinq avoue consulter son téléphone pendant le cours. Et moi, j'ai une professeure hier de cinquième qui me disait, on enseignait un cours de langue, et en fait... détenir son téléphone pendant la classe empêche même la réflexion parce que certains l'avaient sur les genoux en train de faire Google Traduction pour trouver la solution. Ouais, et donc, quand on va à l'école, on considère qu'on y va pour recevoir un savoir, pour réfléchir, pour interagir avec les autres et non pas, en effet, pour essayer, comment dire, d'être rivé sur son téléphone avec des notifications qui tombent. Vous savez, l'UNESCO a fait une recommandation récemment, en 2023, qui interdit dans le monde entier l'utilisation des portables dans les écoles. Pour quelle raison ? Pour trois raisons. D'abord parce que ça a des effets délétères sur le plan mental et physique, parce que ça perturbe évidemment la concentration des élèves, puisque ça crée de la distraction. Deuxièmement, c'est un vecteur de cyberharcèlement. On voit de plus en plus des gamins qui sont totalement accros dans les classes, qui filment une scène de conflit entre un élève et un prof et qui immédiatement la mettent en fait sur les réseaux sociaux. Et donc, ça exporte la violence à l'extérieur de l'établissement. Mmh. Et évidemment, on a très bien remarqué qu'il y avait un lien entre les apprentissages et les résultats scolaires. C'est-à-dire que des élèves qui sont en difficulté...
C'est mesuré, ça ?
C'est mesuré, oui, absolument. L'UNESCO a prouvé, a signalé que, attention, ça réduit évidemment les progrès scolaires des élèves, parce qu'encore une fois, ça crée des difficultés de concentration pour les jeunes.
Oui, bien sûr, d'où la question posée par la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, le 7 avril dernier. Elle avait dit, je me demande s'il ne faut pas que nous procédions comme en Conseil des ministres, où nous déposons le téléphone à l'entrée. Et alors, donc vous l'avez pris au pied de la lettre, Agnès Evren, parce qu'elle voulait juste une expérimentation, et vous dites, non, il faut généraliser et faire une interdiction vraiment stricte. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette proposition de loi du
Mais coup en fait, la difficulté, c'est qu'on n'en est plus, à mon avis, à proposer des expérimentations. Là, il y a urgence, parce que les portables et smartphones ont envahi le quotidien de nos jeunes. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a plus, si vous voulez, de rupture entre le temps scolaire, le temps passé à l'école et le temps passé à la maison. Puisqu'ils l'ont, encore une fois, les chiffres le montrent, ils l'ont en fait dans les classes. Et parfois, certains me disent, ils l'ont dans les vestiaires du gymnase où on les a surpris en train de regarder un match de foot, ou ils l'ont parfois dans les toilettes, ils se cachent pour aller regarder donc, leur téléphone. Donc moi, je propose une mesure qui est très simple. La première, c'est donc d'interdire le port du téléphone portable à l'école, c'est-à-dire que où les parents décident que les élèves aillent au collège sans leur téléphone, donc ils le laissent à la maison, et c'est déjà le cas pour certains.
Mais s'ils l'emmènent quand même à l'école, comment ça se passe concrètement?
Et puis s'ils l'emmènent, on organise factuellement, c'est-à-dire qu'on fait comme en Norvège, où en fait il y a des casiers où les élèves déposent à l'entrée de l'établissement leur téléphone.
Donc ça, ça demande une organisation, pratique dans chaque école, dans chaque collège, ça peut mettre un peu de temps à se mettre en place aussi.
Mais moi je le propose que ce soit organisé dès le mois de septembre, et de toute façon, je veux dire, les enfants, les jeunes n'ont pas à venir à l'école avec leur portable. S'il y a urgence, les équipes pédagogiques peuvent tout à fait joindre les parents. Vous savez, quand on demande aux élèves à quoi vous utilisez votre téléphone, vous croyez que c'est pour appeler les parents?
Non, très peu.
C'est pour regarder des séries.
Ou à la limite à la sortie.
Mais voilà, à la sortie. Ouais. Donc ils peuvent très bien le déposer à l'entrée le matin et le récupérer le soir à la sortie. Moi, j'ai une professeure qui m'expliquait aussi hier qu'en fait, certains arrivent en classe et elles leur récupèrent. Alors la crainte des jeunes, c'était mais ne touchez pas à mon téléphone. Alors on leur promet de surtout ne pas toucher à leur téléphone, mais c'est vrai que.
Et c'est vrai que ne serait-ce qu'une petite panière à l'entrée de chaque salle de classe, un petit panier dans lequel chacun mettrait son téléphone portable, c'est pas très très compliqué à mettre en place.
Absolument.
Et ça pourrait résoudre pas mal de problèmes.
Mais ça se fait dans le monde du spectacle, parce qu'on est obligé maintenant de faire ça maintenant auprès des adultes aussi. Et une artiste comme Florence Foresti le fait maintenant dans ses spectacles. Ouais. On dépose son téléphone à l'entrée du spectacle, déjà pour qu'il n'y ait pas de fuite de vidéo, mais surtout pour avoir un public plus concentré et qui apprécie plus. Donc même pour les adultes.
Et là, honnêtement, on voit les effets délétères et l'addiction que ça crée chez nos jeunes.
Il
est urgent que ce débat soit mis sur la place publique, encore une fois, des addictions et de l'utilisation, comment dire, abusive des écrans. C'est pour ça que je propose aussi dans mon texte de loi, en fait, un message de prévention à caractère sanitaire, en expliquant aux familles, en sensibilisant aussi les jeunes, que l'usage abusif des écrans peut être dangereux sur le plan développemental, sur le plan intellectuel et sur le plan relationnel. Mmh. Parce qu'un élève qui est rivé sur son téléphone, eh bien, ça l'isole et ça l'enferme. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un exemple intéressant d'un prof qui me disait, aujourd'hui, comme ils passent, en fait, ils ont accès à tout, ils ne gèrent plus la frustration avec leur téléphone. Et donc, quand on leur demande d'écrire un texte, certains n'arrivent même plus à écrire. Il faut voir les conséquences que ça a véritablement sur le plan, comment dire, de la réflexion.
Donc ça peut être une part de la solution, on espère que ça va être voté. Vous avez de bonnes chances que ce soit voté.
Écoutez,
ou pas,
là c'est même plus une question de clivage politique. Oui. Là. C'est un enjeu de civilisation pour moi. Est-ce qu'on veut demain une génération d'enfants qui ne savent plus réfléchir, se concentrer et écrire? Et donc, je pense que ça dépassera les clivages partisans et que la droite comme la gauche, et d'ailleurs je saisis le Premier ministre et Mme Belloubet qui étaient d'accord sur le principe, même si on n'était pas d'accord sur la méthode, parce qu'elle veut encore prendre son temps, de dire qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt de toute notre jeunesse et de l'avenir de cette société.
Mais est-ce qu'il ne faut pas aller encore plus loin? En Espagne, il y a un groupe de parents d'élèves qui ont créé le mouvement Adolescence sans portable, ce qui a conduit le gouvernement espagnol à se prononcer en faveur d'une interdiction carrément du téléphone jusqu'à 16 ans. C'est pour l'instant une recommandation de leur part, parce que c'est les régions là-bas qui décident. Mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller vers ça en France, dire aux parents de ne plus acheter de portable aux collégiens?
Écoutez, moi j'essaie d'être pragmatique, c'est déjà révolutionnaire si on arrive à interdire le port du téléphone dans les écoles. Après, il y a une majorité numérique, normalement c'est à l'âge de 15 ans. Là aussi, il faudrait que ça s'applique. Aujourd'hui, on a des jeunes qui, à l'âge de 9 ans, ont déjà un téléphone. Donc, je trouve que malheureusement, il n'y a pas suffisamment de prise de conscience collective, et notamment des parents. Il y a des parents qui laissent leurs enfants parfois la nuit avec leur téléphone, qui donc reçoivent des notifications. Et encore une fois, beaucoup de professeurs nous disent qu'on voit tout de suite les élèves qui arrivent très fatigués le matin à l'école, et ceux qui n'ont pas de portable, qui arrivent tout frais et qui sont totalement réceptifs aux apprentissages qu'ils vont recevoir.
Eh ben, on suivra l'avenir de cette proposition de loi d'Agnès Evren. Restez avec nous pour suivre l'actualité des médias dans un instant.
Oui, puisque dans un instant, c'est le journal des médias de Julien Pichenet qui arrive sur Europe 1. Et on va parler de la nouvelle saison de Drag Race. Vous aviez regardé sur France Télévisions Drag Race. Eh bien, une nouvelle saison arrive. Elle a été présentée à France Télévisions hier. Et on vous dit tout dans un instant sur Europe 1. Tout de suite.
9h30, 11h.
Thomas Hill sur Europe 1.
Une série de crimes hors normes. Un réalisateur fou retiré dans ses montagnes. Une étudiante en cinéma trop curieuse. Pour l'inspecteur Servaz, l'horreur vient d'entrer en scène. Découvrez Un œil dans la nuit, un thriller glaçant de Bernard Minier aux éditions Pocket.
Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge.
Dans Challenge, un grand dossier sur le cauchemar des droits de succession, un impôt qui rapporte beaucoup plus qu'ailleurs et que les Français détestent. Dans Challenge, les barèmes et les solutions pour réduire l'impôt et aussi les incroyables batailles autour des testaments. À retrouver cette semaine dans Challenge.
Une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Avec le 3044, vous êtes sûr de parler à un vrai conseiller Carglass et l'appel est gratuit. N'oubliez pas, une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, votre invité Thomas ce matin, la signatrice Agnès Evren. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet.
Et on commence avec les audiences. Et en général, le mercredi, c'est le téléfilm de France 2 qui arrive en tête. Est-ce que c'était encore le cas hier soir,
Julien? Oui, France 2 a même encore plus cartonné que d'habitude, cette fois avec la série Disparition inquiétante qui a rempli la salle. 4 700 000 téléspectateurs. La série Doc sur TF1 était loin derrière, 3 millions derrière avec 1 800 000. Déception pour Top Chef en légère baisse, 1 800 000 aussi, c'est 200 000 de moins que la semaine dernière. Et puis on avait hier la première quotidienne de Secret Story à 17h30 sur TF1. Eh bien on était juste en dessous du 1 992 000 téléspectateurs, 10,8% du public, 24% des ménagères. Il y a une grosse concurrence à cette heure-ci. Hein. TF1 était loin derrière, tout le monde a son mot à dire sur France 2, loin derrière, question pour un champion sur France 3. Mais devant M6 et le juste prix qui était à 633 000 hier. 992 000 donc pour info Thomas, TF1 17h30 avec les familles XXL à cette heure-ci et autour du million, on était donc dans la moyenne habituelle de la chaîne.
Et puis c'est vrai que la stratégie de TF1 autour de Secret Story se joue également sur les réseaux sociaux et là c'est vrai que c'est une résonance importante.
Europe 1, le journal des médias.
Et puis France Télévisions a présenté hier la 3e saison de Drag Race France. Elle aura lieu plus tôt que d'habitude cette année.
Oui, parce qu'avec les Jeux Olympiques, ce concours de drag queen qui avait été très commenté sur les réseaux sociaux en 2022 et 2023 devra se terminer avant la fin du mois de juillet, au lieu de fin août. Nous n'avons pas encore les dates précises, mais Drag Race France pourrait donc commencer courant mai, soit un mois et demi plus tôt que d'habitude. Par ailleurs, on a appris hier que Jennifer devrait faire une apparition dans le programme en guest star. On sait aussi que comme l'an dernier, la finale sera enregistrée en public à Paris au Grand Rex et que le programme sera de nouveau diffusé le vendredi sur France.tv/ et sur France 2 en deuxième partie de soirée aux alentours de 23h. La chef des divertissements sur France Télévisions, Alexandra Redamiel, l'assure. Une fois de plus, le programme ne passera pas inaperçu cet été, comme elle le dit au micro européen d'Alexandre Omar.
Il faut s'attendre à des surprises parce que c'est ça en fait Drag Race. Drag Race France, c'est une envie de création et de se réinventer comme l'art du drag. L'art du drag en fait, c'est renaître, se réinventer, c'est recréer. Et finalement, c'est ce que la création et les producteurs et nous diffuseurs essayons de... On se challenge comme ça en tout cas pour cette émission.
La directrice des divertissements sur France Télévisions au sujet de Drag Race France, dont la saison 3 devrait commencer dans le courant du mois de mai. On en reparlera.
Et puis encore une figure du groupe Altis qui quitte le navire.
Nicolas Poincaré va ajouter son nom à la liste des départs enregistrés ces derniers mois. Pour rappel, la liste compte déjà les noms d'Aurélie Cas, de Bruce Toussaint ou encore Laurent Ruquier qui n'y a fait qu'un petit tour. Nicolas Poincaré, 62 ans, était chroniqueur sur RMC depuis 5 ans. Il animait une émission sur BFM Business depuis l'an dernier. Il va rejoindre la boîte de production de David Pujadas, Particule. Nicolas Poincaré, ancienne voix d'Europe 1 d'ailleurs, fera désormais essentiellement du reportage.
Et puis c'est l'application qui faisait cauchemarder de nombreux parents et que les autorités européennes voulaient voir disparaître à tout prix. À peine arrivé en France, TikTok Lite a été suspendu.
TikTok Lite, nouvelle application du géant chinois TikTok qui prévoit de rémunérer ses utilisateurs en fonction du temps passé devant les écrans à regarder des vidéos. En fait, plus on regarde, plus on amasse des pièces virtuelles qui peuvent être échangées ensuite en cartes cadeaux. Arrivée en France fin mars, cette application n'est plus disponible depuis hier. Le commissaire européen au numérique Thierry Breton avait prévu de prendre des sanctions aujourd'hui, dénonçant des risques graves pour la santé mentale. TikTok a pris les devants en fermant l'appli dès hier dans les pays européens. Cette fermeture ne met pas toutefois fin aux poursuites engagées contre TikTok concernant le risque d'addiction à la plateforme. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on passe qu'on franchit un palier supplémentaire avec cette appli.
Et pour le coup, c'est une bonne décision, Agnès.
Ah, mais Evren, excellent, c'était un scandale. Et vous savez qu'il y a un chiffre qui est très éloquent. Les jeunes dans le monde, en moyenne, en 2022, ont passé 2 heures par jour sur TikTok. Oh, vous voyez la médiocrité de TikTok. On n'est que dans l'émotionnel, on n'est pas dans la réflexion. Mmh. Et donc, la difficulté, c'est que les plateformes, aujourd'hui, se livrent une bataille dont les jeunes sont victimes, en fait, avec les algorithmes, pour
une
les rendre encore plus addicts.
Bataille du temps de cerveau disponible, ouais.
Mais c'est ça. Et donc, je me félicite de la décision de Thierry Breton, évidemment.
Et puis, on a appris cette semaine les derniers scores de la Presse Magazine.
Et le magazine le plus lu de France est...
Télé Loisirs, c'est un magazine télé, d'accord.
Effectivement, je précise qu'il s'agit ici d'audience globale, c'est-à-dire on intègre à la fois le papier et le numérique et que ça concerne les 6 derniers mois. Ah oui. Télé Loisirs qui est très fort sur le numérique est très loin devant Télé 7 jours qui perd du monde. Dans le monde des Mac Télé, on assiste d'ailleurs à une folle ascension en ce moment, celle de Diverto qui collabore avec Le Parisien. Depuis la dernière étude, le titre a dépassé TV Magazine et Téléstar. Sinon, du côté des News Mag, Le Point remporte de justesse la bataille face à Paris Match. Quant à la presse féminine, c'est Femmes Actuelles qui mènent la danse. Tiens, puisqu'on parle de Paris Match, sachez que le numéro anniversaire 75 ans sort aujourd'hui avec en couverture la troupe du Splendide, on a Balasco, Chazelle, Lhermitte, Junio, Clavier, Blanc et Moineau, tous nés d'ailleurs quelques mois avant le lancement de Paris Match et tous réunis pour une séance photo exceptionnelle.
Et je vous conseille de lire ce numéro anniversaire de Paris Match parce qu'à l'intérieur, il y a une intelligence artificielle qui annonce ce qui va devenir de la famille royale en Angleterre. Ah. Et William ne sera pas forcément le roi. Vous verrez, il y a une surprise. Vous verrez qui va régner en 2054 grâce à l'intelligence artificielle.
À suivre dans ce numéro anniversaire des 75 ans de Paris Match. Et puis pour finir, une histoire étonnante, celle de l'acteur Théo Bertrand. Quand il a appris qu'il ne tournerait plus dans Plus belle la vie, il a tout plaqué pour aller faire le tour du monde.
Théo Bertrand a aujourd'hui 27 ans. On l'avait découvert en 2011 dans le rôle de l'Aztec dans La Guerre des Boutons, version 2011, donc avec Alain Chabat et Eric Elmostino. Ensuite, il a joué le rôle de Kevin Bellesta pendant 10 ans dans la série Plus belle la vie. Selon lui, la production lui avait promis qu'il ferait toujours partie de l'aventure quand la série est passée de France 3 à TF1. Mais finalement, il n'a pas été reconduit. Alors là, ça a été la déprime. Il a décidé d'aller voir ailleurs, il a quitté son Vercors natal pour aller faire le tour du monde en bateau stop et tout ça sans argent. Et quelques jours, il a posté un message sur Instagram pour raconter son histoire, pour expliquer qu'il n'en voulait pas la production de Plus belle la vie. Il se dit aujourd'hui très heureux, il se trouve actuellement à Puerto Rico, il enchaîne les petits boulots très très loin des plateaux de tournage. Je l'ai contacté pour qu'il nous donne quelques nouvelles.
Voilà, je me suis fait mettre à la porte de manière pas très cool de la série où je travaillais pendant 10 ans. Après, j'ai une grosse déception amoureuse, donc je ne l'ai pas vu venir, mais j'ai pris une grosse dépression. Maintenant, j'essaie d'aller le plus loin possible, d'aller de bateau en bateau, de rencontre en rencontre. J'ai fait des rencontres incroyables, je partage tout sur mon Insta. Je suis tout seul, j'ai pas d'équipe avec moi, donc c'est vraiment vous mon équipe. Et j'étais très inspiré par Nu et culotté et J'irai dormir chez vous, ça m'a toujours fait rêver. Et maintenant, que ça soit moi qui parte un peu à l'aventure et qui puisse le montrer aux gens, c'est... je suis très content d'être là où je suis aujourd'hui. Et je remercie Europe 1 de pouvoir partager ça avec vous.
L'acteur Théo Bertrand, parti faire le tour du monde. Il ne reviendra que dans 1 ou 2 ans, m'a-t-il dit. En attendant, vous pouvez suivre ses aventures sur son compte Instagram. Étonnant compte Instagram. Hein. Théo Bertrand, il compte déjà près de 100 000 abonnés.
En tout cas, il est à la pêche. Hein. Il a l'air d'être en forme.
Bah, comme quoi, parfois, les ruptures amoureuses, aussi difficiles puissent-elles être, ça donne le coup de boost.
Et sur son compte Instagram, on a vraiment l'impression de regarder un épisode de J'irai dormir chez vous. Hein. C'est vraiment étonnant. Bien.
Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias, dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter Média Inscription gratuite sur europe1.fr. Merci beaucoup Agnès Evren d'être venue ce matin.
Merci à vous pour votre invitation.
Au micro d'Europe 1. Et puis on va suivre donc l'avenir de votre proposition de loi pour interdire totalement et vraiment, vraiment cette fois-ci le portable à l'école. Merci d'être venu.
Et Culture Média continue après les infos de 10h, Thomas.
Oui, on sera avec le réalisateur Jean-Marie Poiret qui livre ses mémoires de tournage dans un livre absolument passionnant.
Et puis vous le savez, tous les jours, Sophie Davant vous invite à jouer. Sophie et les copains, c'est de 16h à 18h sur Europe 1. Vous serez aidé par sa bande de copains et son invité aujourd'hui, Tom Villa, pour la série Mademoiselle Holmes sur TF1. Vous allez pouvoir tenter de décrocher le jackpot. Pour vous inscrire, vous envoyez Sophie au 7 39 21, 75 centimes plus coût du SMS, 3 SMS pour s'inscrire. Tous les jours, 16h, 18h sur Europe 1.
Il y a une Opel pour chaque.
chaque et chaque. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr.
À tous ceux qui aiment les fraises nature et à ceux qui les préfèrent avec du sucre, un filet de jus de citron, quelques feuilles de menthe et beaucoup de chantilly.
Bah quoi ? Oui, j'aime vivre et alors ? On a quand même le droit de se faire plaisir de temps en temps, non ?
Jusqu'à samedi, Intermarché propose la barquette de 500 grammes de fraises rondes d'origine France à 2,69€ seulement. Et tous les week-ends, vous avez 10% en avantage carte sur le rayon fruits et légumes.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Soit 5,38€ le kilo, catégorie 1.
On sort ce soir ? On pourrait aller au ciné, ou aller voir une expo, ou un concert. Ça fait des années qu'on n'en a pas fait. Bon, tu m'écoutes là ?
Hein, pardon, tu disais ? Excuse-moi, j'étais plongée dans une enquête sur le business des grands chefs cuisiniers. C'est incroyable !
Capital, jamais l'économie n'a été aussi captivante. Capital, premier magazine économique vendu en France. Disponible chez tous les marchands de journaux. Hé, hey, tu me le prêtes ?
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations.